Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Nous démarrons cette édition de journal par cette revendication des populations des Massimanimba qui sollicitent auprès de la CENI la révision du calendrier électoral des législatives dans leur juridiction. Leurs arguments, c'est à suivre tout de suite. Situation carcérale des détenus d'Abou Tembo. Dans ce journal, le réseau pour les droits de l'homme Aredo plaide pour une célérité dans l'instruction des dossiers des prévenus car la vie des incarcérés des Kakwangura laisse à désirer. Info que nous vous proposons dans cette édition. Alain Lietti, secrétaire général au ministère des Affaires humanitaires, intervient comme invité de ce journal vespéral. Il commente la politique nationale des actions humanitaires en cours de vulgarisation. Restez donc avec nous pour d'autres contours de l'actualité du pays. Bienvenue, excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Amis à l'écoute, bonsoir. Dans le Kwilu, la population du territoire de Massimanimba demande à la CENI de revoir son calendrier électoral publié récemment concernant la tenue des élections législatives dans cette juridiction et à Yakoma où les scrutins ont été annulés pour notamment la fraude électorale, bourrage des urnes et vandalisme. Cette population souhaite que la dite élection ait lieu avant l'élection des gouverneurs, sénateurs et membres des bureaux des assemblées provinciales. Cela pour permettre aux élus de participer aussi au vote de ces derniers. On écoute un extrait de leur mémo lu à l'occasion et choisi ici par Irène Boba.
Nous, forces vives du territoire de Massimanimba, province du Kwilu, remercions la CENI pour avoir publié les calendriers des scrutins pour Massimanimba et Yakoma. Demandons à Monsieur le Président de la CENI de revoir son calendrier avant l'élection de sénateurs, gouverneurs, membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Il est inacceptable qu'on puisse priver la population de Massimanimba d'élire leurs gouverneurs, leurs sénateurs et leurs membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Quand bien même ces élections sont à suffrage universel, en direct. Donc, nos députés élus ne peuvent pas être privés de ces droits, étant donné que Massimanimba scelle à 8 sièges. Ces 8 voix vont fortement impacter à l'élection des gouverneurs, sénateurs et membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Comment ils seront dirigés par un gouverneur qui n'ont pas élu? Et comment ils seront représentés par des sénateurs qui n'ont pas élu? Raison pour laquelle nous demandons au président de la CENI de revoir les calendriers afin que cela ait lieu après la publication des élections nationales et provinciales de Massimanimba et Kwilu pourra organiser son élection.
Prestation de serment ce week-end, donc vendredi et samedi, ici à Kinshasa, des magistrats affectés dans différentes juridictions de la capitale. Samedi, ce sont 31 juges présidents et 9 conseillers affectés à la cour d'appel de Matete qui ont prêté serment au siège de la cour à la 4e rue Limété. Un jour avant, soit vendredi, c'était la prestation de serment des magistrats du ministère public du parquet près le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Kalamon. Au total, 93 substituts parmi eux, 3 anciens magistrats qui ont renouvelé leur engagement. Actualité dans le Nord Kivu, le réseau pour les droits de l'homme Aredo appelle la justice à accélérer l'instruction des dossiers des prévenus pour désengorger la prison de Kakangura de Butembo. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme basée à Butembo, le retard du traitement des dossiers de plusieurs détenus est à l'origine du surpeuplement carcéral dans cet établissement pénitentiaire où des cas de décès sont signalés depuis quelques mois. Plusieurs détenus dorment sur le pavé et d'autres souffrent de malnutrition sévère. Muindo Wasivinwa, coordonnateur du Redo, plaide également pour la construction d'une nouvelle prison à Butembo. Il est au téléphone de Martial Papimukeba.
La question du surpeuplement de la prison centrale de Kakwangura nous préoccupe grandement puisque aujourd'hui l'effectif a sensiblement augmenté, 1019 détenus, alors que cette maison de correction a une capacité de 200 personnes. Parmi ces détenus, 25 sont des femmes avec 4 nourrissons, une dizaine de malades et 200 vessus mal nourris. Parmi les 1019 détenus, seulement 112 sont condamnés, parmi eux des femmes. Nos recommandations est que les parquets civils, militaires ainsi que les tribunaux accélèrent l'instruction des dossiers avec prévenus. Mais aussi les parquets devront libérer les détenus poursuivis pour les faits moins graves. La grande solution est de construire une prison spatiale à ville de Butembo pour une bonne garde des détenus.
Sud-Kivu, la société civile, dans sa diversité, dit prendre acte du désengagement de la MONUSCO de cette province après une vingtaine d'années. Position exprimée samedi 3 février à Bukavu au cours de la rencontre des membres de la société civile avec le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix. La société civile du Sud-Kivu émet une série de craintes quant à l'avenir de la situation politique, sécuritaire et socio-économique après la MONUSCO dans cette province. C'est Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Tout en prenant acte du désengagement de la MONUSCO en cours au Sud Kivu, la société civile dit sa gratitude à l'ONU pour tous les efforts consentis en faveur de la paix. Pendant ces temps, devant Jean-Pierre Lacroix, les membres de la société civile émettent des inquiétudes sur l'évolution de la situation après MONUSCO. Ils attirent l'attention de l'ONU sur l'expérience malheureuse de sa mission au Rwanda en 1994. Plus jamais ça, disent-ils. Il est demandé à l'ONU de changer le narratif des crimes et violations massives des droits humains commis en RDC, de mettre fin aux attitudes et discours diplomatiques ambigus de la communauté internationale sur la situation dans l'est de la RDC, cela en prenant des sanctions contre les auteurs des crimes graves par un tribunal pénal international pour la RDC. La société civile du Sud Kivu s'interroge sur sa part à elle après des décennies de collaboration avec la MONUSCO. À ce sujet, elle appelle l'ONU à concrétiser son appui au projet de construction de la maison du citoyen dont les travaux ont débuté à Bukavu. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Ituri, à présent, deux factions de forces patriotiques et intégrationnistes du Congo FPIC se sont affrontées vendredi et samedi dans le groupement de Kunda à une dizaine de kilomètres au nord de Bunia. Selon des sources concordantes, des pertes en vies humaines et des blessés ont été enregistrés dans les deux camps avant l'intervention des FRDC pour déloger ces miliciens. Ces derniers ont pillé plusieurs biens, incendié des dizaines de maisons et des milliers d'habitants ont trouvé refuge dans les localités proches, comme le dit Isaac Remoyope.
Des tensions étaient observées depuis vendredi entre la faction de la milice FPIC de Kunda et celle de Mwanga à environ 12 km de Bunia. Les deux parties se sont affrontées dans les villages de Beabo puis à Matumini jusqu'à samedi à la mi-journée. Les leaders de ces factions se disputeraient le contrôle de certaines localités où on exploitait de l'or. Selon des sources locales, il y a eu des morts et des blessés dans les deux camps sans déterminer les nombres car la zone est encore inaccessible. Au moins 57 maisons ont été également incendiées et plusieurs biens de la population pillés par ces inciviques qui ont été délogés samedi vers 11h par les FARDC. Suite à ces affrontements, tous les habitants de Beabo, Matumini et du centre commercial de Kunda ont fui vers Chari, proche de Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri. Les boutiques, les marchés, les écoles et même l'exploitation de l'or, tout est paralysé depuis vendredi dans ces groupements, rapporté des sources locales. Depuis ce dimanche, un calme s'observe dans ces milieux grâce à la présence des FARDC qui contrôlent cette entité. Les autorités militaires encouragent les habitants à retourner dans leur village d'origine, Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le monde célèbre le 24 janvier la Journée internationale de l'éducation. Occasion pour le Conseil communal de la jeunesse du Kalamu, en collaboration avec le Réseau international des jeunes pour le développement durable et la plateforme Tozali, de réfléchir avec les jeunes élèves de l'école Émergence de Yolo sur la prévention des violences basées sur le genre en milieu scolaire. Un reportage de Greta Lulendo.
C'est en présence du bourgmestre de la commune de Kalamu, Charlie Louboya, que s'est passée cette matinée de réflexion. La présidente du conseil communal de la jeunesse de Kalamu tire son message de sensibilisation du thème choisi par l'UNESCO, apprendre pour une paix durable. Myriam Kizimini.
Le message porté par les thèmes internationaux, apprendre pour la paix. Nous pensons que la violence basée sur les gens, c'est un fléau, que nous devons lutter et qu'elle dérange la paix. Nous pensons qu'avec ces thèmes, on a quand même arrivé à la prévention de toutes les violences au milieu scolaire.
Gloire Makandi, un des intervenants, a parlé, lui, du rôle de l'éducation dans la culture de la paix.
En fait, l'éducation permet à résoudre de manière très pacifique nos conflits, mais ça me permet également de lutter contre les préjugés, la discrimination dans des milieux scolaires, mais dans la vie et dans tous les domaines.
Nelly Louboya, directrice de l'école Émergence, loue cette initiative qui leur donne un coup de pouce pour éradiquer ces fléaux que sont les violences basées sur le genre en milieu scolaire.
Il y a de cas que nous subissons aussi, mais avec la participation des enfants eux-mêmes, nous essayons de continuer à sensibiliser pour éradiquer ces fléaux.
La présidente du conseil communal de la jeunesse de Kalamu a promis de poursuivre cette sensibilisation dans d'autres écoles de sa commune.
Parlons à présent de cette installation d'une usine de transformation d'engrais chimiques et de construction d'un parc agro-industriel dans le Congo central. Ce projet a fait l'objet d'une rencontre entre le gouvernement congolais et la firme canadienne Fertile Ground. C'était ce samedi 3 février ici à Kinshasa. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui représentait la partie gouvernementale, a appelé cet investisseur à être plus pragmatique. Pour sa part, Bill Cannon, patron de Fertile Ground, a assuré le gouvernement des capacités techniques et financières de son entreprise pour exécuter ce projet. Bill Cannon le dit à Paul Matendo.
We can create food and the people can win and the country can win.
Bill Cannon est l'objet de la rencontre avec le ministre était par rapport au programme agro-industriel qui implique les champs modernes et également l'usine de transformation et de production d'engrais. Et l'idée, c'est de construire des champs modernes avec des nouvelles technologies pour essayer d'avoir des meilleures façons de cultiver et avoir des cultures qui sont saines pour qu'on ait un partenariat gagnant-gagnant. Donc la réaction du ministre était très positive et à savoir quand est-ce qu'on veut commencer, on va suivre l'agenda du gouvernement. Mais à notre état d'être prêt, on peut juste illustrer en disant que si le gouvernement demandait de commencer demain, on va commencer aujourd'hui. Si le gouvernement demandait qu'on commence samedi, on commencera vendredi. Donc nous sommes prêts et on va suivre l'orientation du gouvernement pour commencer le projet le plus tôt possible.
We can create food.
C'est ce lundi 5 février que s'ouvre à Cape Town, en Afrique du Sud, la 30e édition du Forum Indaba Mining, l'événement annuel incontournable pour les parties prenantes dans le secteur minier. Le Premier ministre Samalou Kondé est à la tête d'une forte délégation congolaise. Elle est notamment composée de la ministre des Mines, des membres de la FEC, des gouverneurs, ainsi que Miguel Cachal, directeur général de l'autorité des régulations et de la sous-traitance dans le secteur privé. Cette année, la conférence dont les travaux s'étalent sur 4 jours a pour thème « Adopter le pouvoir du bouleversement positif, un nouvel avenir prometteur pour l'industrie minière en Afrique. » Avec toutes les rencontres bilatérales prévues, la conférence Indaba est l'occasion de réunir la communauté minière pour susciter le changement et stimuler les investissements dans le secteur minier et celui de l'énergie. Selon les organisateurs, Indaba Mining, c'est plus de 6000 participants chaque année. Il représente quelques 800 multinationales et environ 40 délégations gouvernementales et paragouvernementales. À l'Équateur, à présent, la police de circulation routière PCR n'a réalisé que 0,97% de ses assignations pour l'exercice 2023. Pourtant, elle devait produire 15% des recettes globales assignées à l'ensemble de la PNC Équateur. Et pour améliorer, le commissaire provincial a tenu ce week-end à Mbandaka une réunion d'échange avec les partenaires dont les associations des motards, des services concernés et la presse locale. Le point avec Paul-Richard Malingela.
D'entrée de jeu, le commissaire provincial de la PNC Équateur, Placide Nyembo, a indiqué que la route appartient à l'État congolais. À cet effet, elle reste gérée par les services attitrés, dont la police de circulation routière. Celle-ci aide à réguler la circulation, a-t-il dit, afin que la route ne soit pas un mouroir. Cependant, au nom de la paix sociale, des éléments de la PCR Mbandaka ont cessé de réprimer les auteurs des contraventions routières depuis une année entière. Conséquence, les cas d'accidents routiers se sont multipliés à travers la ville, y compris la baisse quasi totale des recettes du trésor public générées par la PCR. C'est pourquoi, au cours de la réunion d'échange qu'il a tenue jeudi dernier à Mbandaka avec les responsables des transports de la CNPR et des associations des conducteurs de taxi-moto, les participants ont unanimement convenu de la reprise effective des activités de la PCR dès la semaine prochaine. Pour cela, le commissaire provincial Placide Nyembo a tenu d'abord à sensibiliser personnellement tous les conducteurs et motards de la ville le mercredi 7 février prochain à 10h au terrain municipal de Wangata. Mbandaka, pour Chamalingela, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La joie du Parti démocratique sénégalais. Les partisans de Karim Ouad célèbrent le report de la présidentielle du 25 février prochain par le président Macky Sall. Une décision qui fait suite, entre autres, aux contentieux entre leur candidat et le Conseil constitutionnel accusé de corruption par l'ancien parti au pouvoir. Nous magnifions cette décision parce que c'est une décision qui prend la justice parce qu'on ne pouvait pas organiser ces élections sans le frère Abdou Karim Issa Ouad, qui est la seule alternative viable, fiable pour faire émerger ce pays, explique un leader de la jeunesse libérale. Du côté des autres formations de l'opposition, le report de l'élection est dur à encaisser. Dans le quartier général du candidat Khalifa Sall, la nouvelle est tombée comme un couperet à la veille du début de la campagne électorale. Et puis, Tyson Fury a sollicité et obtenu le report de son combat contre Alexander Usyk suite à une blessure à un œil lors d'un entraînement. Le combat en vue de l'unification des ceintures mondiales dans la catégorie reine des poids lourds prévu le 17 février doit désormais se dérouler le 18 mai en Arabie Saoudite. Le vainqueur sera le premier champion incontesté des poids lourds depuis Lennox Lewis en 2000. Fury détient le titre mondial des WBC depuis 2020, alors que l'Ukrainien Alexander Usyk est le propriétaire des couronnes WBA, IBF et WBO depuis 2021.
L'invité.
Dans le Kasaï oriental, atelier des vulgarisations samedi en Mbujimayi de la Politique nationale des actions humanitaires. Les responsables des services étatiques concernés, ceux concernés par les actions humanitaires et les catastrophes, ceux des organisations nationales et internationales ainsi que les représentants des agences du système des Nations Unies ont participé à cet atelier organisé par le ministère des actions humanitaires en collaboration avec le bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Alain Lietti, secrétaire général au ministère des affaires humanitaires, s'entretient avec Esther Dalafina sur ce sujet.
Bonjour, monsieur Alain Ietti. Vous vous retrouvez en Mbujimayi, au Kasaï oriental. Quel est le but de votre mission?
Merci, madame. Nous faisons une tournée à travers l'espace Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et Kasaï pour vulgariser la politique nationale des actions humanitaires et renforcer la coordination des acteurs humanitaires.
Est-ce que nous pouvons savoir les grandes lignes de cette politique nationale des actions humanitaires?
Les actions humanitaires, ce sont des interventions qui visent à sauver des vies et à alléger les souffrances des gens qui sont frappés par les catastrophes et situations d'urgence. Alors quand on parle de catastrophe, il y a trois grands éléments. Il y a d'abord l'identification du risque des catastrophes et les actions anticipatives de préparation de la réponse. Il y a la réponse aux catastrophes proprement dites, mais après le catastrophe, il y a des actions de reconstruction pour permettre aux populations de passer l'état de détresse ou de se relancer dans leur développement personnel.
Quels sont les nouveaux éléments ou bien les nouvelles informations qui ont été intégrées dans la politique nationale des actions humanitaires?
La politique existe depuis parce qu'elle découle des accords internationaux. Mais dans d'autres pays, nous voulons mettre l'accent sur quelques éléments. Le premier élément, c'est la gouvernance, le mécanisme de coordination, le loi et règlement qui doivent permettre de mieux anticiper les crises et de répondre aux crises. Ça, c'est la gouvernance. Le deuxième élément sur lequel nous insistons, c'est la réduction de risque des catastrophes. Ce sont des actions anticipatives qui doivent être menées pour atténuer le risque et cela se fait dans plusieurs secteurs parce que le risque que nous connaissons, ils sont là. Nous vivons avec ces risques, mais nous ne faisons presque rien au point que la plupart des temps, les catastrophes viennent comme des inconnus. Le troisième aspect sur lequel nous voulons aussi insister, c'est aussi un axe, c'est la coordination. Les actions humanitaires, c'est une responsabilité de l'État qui travaille avec le partenaire. Donc, il faut que dans le cadre de la responsabilisation de l'État et des renforcements des capacités institutionnelles, l'État reprenne son lead et qu'il travaille de manière consensuelle avec tout le partenaire pour plus de synergie et de complémentarité des interventions.
Et si la politique nationale existe déjà. Pourquoi la vulgariser aujourd'hui encore?
Nous la vulgarisons dans ces contextes, notamment dans le Kasaï, parce que vous savez, la situation est devenue stable. Le bureau des Nations Unies en charge des affaires humanitaires doit fermer. Et c'est ce bureau qui aidait l'État dans la coordination. Maintenant, il faut que les services étatiques montent au créneau pour reprendre le travail de coordination.
Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce que vous leur avez donné les atouts, les connaissances pour qu'ils puissent le faire et que ça soit bien coordonné?
C'est le travail que nous sommes en train de faire. La première chose, c'est que les acteurs doivent connaître le rôle, les attributions, les outils qui existent et puis les attitudes et les pratiques qui permettent d'avoir une bonne coordination. La coordination voudrait dire qu'on doit être ensemble pour identifier le besoin, on doit être ensemble pour mener les évaluations, être ensemble aussi pour mobiliser des ressources et rendre compte. Alors si cela est fait, nous avons dit que c'est la responsabilité de l'État qui doit mettre le moyen à la disposition de ses services. C'est ce qu'on appelle le renforcement de l'autorité de l'État qui va avec les capacités techniques mais aussi les moyens pour faire le travail sur terrain.
Au Kassai oriental, il y a bien évidemment beaucoup de personnes qui ont connu des catastrophes telles que les éboulements de terrain, qui continuent à vivre aujourd'hui à la Belle Étoile ou sont dans des familles d'accueil. Et jusque-là, nous ne voyons pas l'impact de l'action humanitaire.
Oui.
Comment expliquez-vous cela? Parce que vous représentez l'État.
L'action humanitaire est là pour sauver les gens au moment des catastrophes, pour leur apporter des solutions temporaires. Mais la question des stabilisations, c'est une question de développement. C'est là où, maintenant, on parle de l'approche Nexus, où les acteurs humanitaires, les acteurs de développement doivent être ensemble pour voir quelles sont les solutions apportées par rapport aux problèmes structurels qui permettent aussi aux populations de mener d'une manière acceptable leur existence. Donc, le problème qui se pose dépasse le cadre des actions humanitaires, devient le problème du développement qui demande la conjonction de plusieurs secteurs.
Monsieur Alain Ieti, je vous remercie.
Merci, madame.